Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. On a vu des barrages emballants, place ce week-end à des demi-finales palpitantes. Stade Toulousain, Castres et Union Bordeaux-Bègles, Montpellier. Nous allons évidemment en parler longuement avec notamment notre légende, parce que lui, des demi-finales, il en a joué des tonnes, tellement qu'on ne les compte plus hein, en championnat, en Coupe d'Europe, en équipe de France. Imanol Arinordoki, salut Imanol.
Bonjour les champions.
Ça va, oui, des demi-finales, j'ai dit tu les as souvent gagnées toi.
Hein. Pas assez, jamais assez. J'aurais bien joué plus.
Eux, des demi, ils en ont bu, hein, surtout, enfin avec modération, pardon, excusez-moi, elle était facile. Marc Duzan et Jérémy Fada du Midi Olympique, salut les gars.
Salut tout le monde.
Salut Olive, c'est surtout Marc qui les boit.
Ouais. Au programme, cette semaine, messieurs, Toulouse, évidemment, emmené par un Antoine Dupont à nouveau irrésistible, les Toulousains ont-ils fait le plus dur après leur victoire contre La Rochelle dans ce barrage qu'on a présenté comme une finale avant l'heure ? Toulouse, grand favori pour un troisième titre consécutif, ne serait-ce pas faire un jour à des castrés épatants premiers de la saison régulière, mais comme toujours, mes estimés, on en parle dans la première partie. Poignée de main glaciale, pique par médias interposés, menace de départ. Malgré la qualification face au Racing, les tensions sont fortes à Bordeaux entre Christophe Furios et ses internationaux Cameron Wauki et Mathieu Jalibert. Alors comment se préparer sereinement dans ces conditions ? Et y a-t-il un risque d'implosion avant cette demi-finale brûlante face à un Montpellier reposé ? Et très loin de cette agitation, on en parlera évidemment dans Arrêt Buffet. Allez, on ne traîne pas, on met le bandeau, on sort des vestiaires et on y va. Arrêt Buffet, c'est parti. Allez messieurs, on commence avec cette première demi-finale vendredi soir à Nice, ce derby, ce classique Castres face au Stade Toulousain. Imanol, je le disais dans la présentation, on a parlé de finale avant l'heure pour ce barrage contre La Rochelle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Toulousains sont maintenant lancés vers un troisième titre consécutif. C'est peut-être un petit peu réducteur, mais c'est vrai qu'on a retrouvé un très bon Toulouse et un grand Antoine Dupont. Est-ce que c'est suffisant pour faire des Toulousains les favoris vendredi selon toi ?
C'est toujours un match particulier quand les Toulousains jouent contre les Castrés ou que les Castrés jouent contre les Toulousains. Il y a ce phénomène, hein, de cette notion de derby qui existe même en phase finale, qui fait que peut-être les Castrés sont quand même très, très bien préparés, ont eu le temps d'aborder stratégiquement et physiquement dans les meilleures conditions ce match et se dire cette année, c'est pour nous et on ne va pas laisser passer les Toulousains. Maintenant, les Toulousains, même si on les avait enterrés, il faut reconnaître quand même que quand ils jouent à ce niveau, le niveau qu'ils ont affiché contre La Rochelle, ils sont plutôt irrésistibles et on ne voit pas qui pourrait les arrêter. Maintenant, on disait la même chose du Leinster avant qu'ils jouent La Rochelle. Donc voilà, c'est la beauté aussi de ce sport. C'est que tout est possible, mais je m'attends quand même à un match serré parce que là, pour le coup, je pense que les deux équipes ne vont rien lâcher. On a retrouvé Toulouse très costaud défensivement. Je pense que les Castrés ne vont pas laisser leur part aux chiens. Donc, ils vont aussi surveiller de près Antoine Dupont. Voilà, ça s'avère vraiment un match coriace, engagé, serré, où il va y avoir du combat, à voir si la dynamique toulousaine pourra venir compenser en tout cas la fraîcheur physique des Castrés. Il n'y a pas de juste école, il n'y a pas de juste milieu. On a souvent vu d'ailleurs que c'est plutôt les équipes qui enchaînent les matchs, même que l'on croit fatiguées, mais qui arrivent souvent à battre les équipes qui ont plus de fraîcheur, qui n'ont pas joué ce match de barrage, mais qui peuvent aussi manquer de rythme dans un match où il peut faire chaud aussi à Nice. Donc, on aura la réponse vendredi soir.
Mais tu mets ça sur le tapis. On en parlait dans le middle justement lundi. Hein, on parlait beaucoup de l'importance de la récupération, de la fraîcheur physique. C'est vrai que Castres a très peu joué ces dernières semaines, trois matchs en 5-6 semaines hein, contre Biarritz, Perpignan et Pau. C'est vraiment un avantage, parce que tu disais il y a aussi le fait de ne pas avoir de rythme face à des Toulousains lancés après le barrage. Vous en pensez quoi, vous, Marc et Jérémy ?
Bien sûr que c'est un avantage, la fraîcheur, c'est même décisif. Enfin, on l'a vu pour Toulouse contre le Leinster. Toulouse manquait de fraîcheur et a pris 40 points. Donc oui, ça peut être un avantage. Ceci dit, je pense que Toulouse aujourd'hui compense par une certaine colère. Et à ce sujet, tu vois, il y a une phrase à l'époque où Toulouse était dans le dur, où Toulouse perdait des matchs pendant les doublons. Hugo Mola avait dit, si on se qualifie, on ne sera pas droit à jouer. Et tu vois, ça se confirme parce que Toulouse aujourd'hui, portée par sa légion d'internationaux et surtout portée par cette colère et cette frustration, une frustration d'avoir pris 40 points contre le Leinster, une colère d'avoir perdu des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre si leurs internationaux avaient été à la maison, tu vois. Portée par tout ça, cette colère et ce talent font que pour moi aujourd'hui Toulouse est injouable et qu'aujourd'hui Toulouse ce sera dans 15 jours en finale au Stade de France.
Ah oui, toi injouable à ce point-là. Jérémy, toi qui as l'habitude de les suivre.
Bon, pour aller un petit peu dans le sens de Marc, moi je les suis depuis plusieurs années. C'est vrai que contrairement aux saisons précédentes, un peu la nouveauté cette année, c'est qu'ils font beaucoup de choses à l'orgueil. Ça a été très vrai sur les phases finales de Coupe d'Europe. Les saisons précédentes, ils ont construit leur exercice pendant des mois. Voilà, ils ont eu du confort en championnat, ils ont pu un peu ménager les organismes, faire tourner. Là, ils n'ont pas eu du tout ce loisir-là. Voilà, on ne va pas revenir sur les péripéties de la saison. Et par contre, voilà, ils ont failli perdre leur titre européen dès la phase de poule ou dès les huitièmes. Et bien, à l'orgueil, ils ont été se faire ce match en Ulster. À l'orgueil, ils ont été au Munster. Le Leinster, c'était un défi trop grand. Et là, j'ai le sentiment que ça a été un petit peu pareil contre La Rochelle la semaine dernière. Ça reste des compétiteurs hors normes. C'est des mecs qui sont obsédés par la victoire, qui sont piqués au titre. Et que vous le vouliez ou non, moi, pour discuter un peu avec eux, ils recevaient les nouveaux champions d'Europe. Et ça les a quand même, ça les a transcendés. Et pour l'histoire de la fraîcheur, et ça, c'est Hugo Mola qui nous le disait juste après le match vendredi soir, il dit, il ne faut pas oublier que mon groupe, la plupart des mecs aujourd'hui, ils ont 25-26 piges et ils ont quand même eu une semaine de récup. Il dit, sans faire offense à Biarritz, on a reçu le Biarritz B la dernière journée. En gros, on a eu 15 jours de récup et à 25 ans, 15 jours de récup, ça vaut de l'or, quoi. Ça, Imanol peut-être pourrait nous le raconter parce qu'il est passé par là. Et il nous disait, quand à la trentaine, c'est peut-être un petit peu plus dur de récupérer. Mais en une semaine, 15 jours, à 25 balais, tu recharges les batteries.
T'en penses quoi, toi, Imanol?
Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'ils sont revenus. Moi, je dirais qu'ils sont revenus à l'orgueil, au caractère, à la fierté. Mais ce qu'on a retrouvé le week-end dernier, c'est un Toulouse qui joue juste, qui a plus de justesse technique, moins de ballons tombés, plus de précision avec le ballon. Ils multiplient les temps de jeu, ils jouent en avançant. Alors qu'on les a vus par moments, quand ils perdaient un peu le rugby, c'était beaucoup de passes au contact dans tous les sens, mais c'était plutôt en reculant et forcément, ils se faisaient contrer. Donc là, on a retrouvé quand même de la justesse technique. Alors ça, c'est pas que la colère, c'est que je pense que peut-être qu'ils ont retrouvé un peu de sérénité dans leur jeu. C'est ce qui faisait aussi vraiment leur force l'année dernière, où ils étaient vraiment injouables. Et donc voilà, s'ils ont cette justesse-là, qu'ils arrivent à tenir le ballon, qu'ils sont précis dans les passes et surtout qu'ils jouent en avançant, qu'ils commencent pas à faire des passes devant la défense, ce qui a été leur défaut cette saison, à ce moment-là, ils seront injouables. Maintenant, pour parler des castrés, bien sûr que la fraîcheur physique, même si, comme tu disais, Jérémy, peut-être les Toulousains ont aussi récupéré, pour les castrés, c'est toujours un avantage. Ça permet déjà de soigner les bobos, chose que tu ne peux pas faire quand tu as un match tous les week-ends, de retrouver aussi du monde pas que sur le terrain, mais du monde aussi à l'entraînement la semaine. Ça te permet de travailler dans des meilleures conditions. Il y a tout un contexte qui fait que tu es dans les meilleures dispositions. Maintenant, tu as un peu moins aussi cette tension, peut-être cette colère qu'il y a du côté toulousain, cet orgueil qui fait que tu es prêt depuis un moment à jouer ces matchs-là. Donc, moi, c'est personnel, mais je sais que je n'ai jamais aimé être dans les meilleures dispositions pour arriver à un match. Quand tu as mal nulle part et que tout va bien, ce n'est pas là que tu fais les meilleurs matchs. Il faut toujours avoir un petit coup, sentir un peu sous tension ou un peu de fatigue. Ça, c'est là que tu sens que le groupe vit. Voilà, quand ça vit trop bien, il peut y avoir aussi un peu de relâchement quand tu n'as pas joué. Donc, il n'y a pas de bonne école, mais je préfère être dans la dynamique des Toulousains que celle des castrés, avec un peu trop de confort. Les castrés, ils n'aiment pas être. J'ai dit la semaine dernière, pour moi, ils sont sortis du bois un peu trop tôt, ils finissent premier.
Ça veut dire quoi, ça?
Ils ont un peu de confort, je ne sais pas. Je pense qu'ils ne sont pas habitués un peu à ce rôle et ouais, pour moi ils ont peut-être le meilleur rôle, en tout cas la meilleure approche pour jouer ce match, mais je suis pas sûr que ça leur aille finalement.
Ouais, Castres, c'est bizarre quand même. C'est toujours la même histoire. Ils ont beau terminer premier de la saison régulière. Ils étaient champions de France il n'y a pas si longtemps. Hein, c'était en 2018. Il y a toujours une forme de retenue avec ce club. On semble toujours surpris de les voir où ils sont. C'est vrai que c'est pas le plus gros budget. C'est le 10e budget seulement. C'est une extraordinaire réussite. Et c'est un club qui est quand même qui a des grosses ambitions. Pour eux, pas question de vouloir s'arrêter en demi-finale. Hein, quand on entend les discours de David Carrère ou Pierre-Henri Broncan, ils ne viennent pas en victime à Nice.
Moi, je trouve qu'on a une fausse image de Castres. Il n'y a rien qui me gonfle lorsqu'on compare Castres à un petit poussé, quoi. Ils ont certes le 10e budget, mais ils ont une énorme masse salariale. C'est certes une sous-préfecture de 30 000 habitants, mais c'est un club qui est quand même soutenu par un mécène ultra puissant, les laboratoires Pierre Fabre. Je veux dire, les joueurs de Castres, ils sont très bien traités, très bien payés. Ils ne sont pas payés en foin ou en flocon d'avoine. Enfin, ça va, quoi. Un petit poussé, non. L'effectif de Castres, il n'a rien à envier à celui de Bordeaux, celui de Montpellier. Je suis désolé, quoi.
Bah, il y a peut-être moins de, entre guillemets, stars d'internationaux sur le papier.
Oui, c'est moins clinquant.
Oui, mais il est très bien équilibré. Et la grande force, c'est depuis 2 ans, je trouve que toutes les recrues ont amené une plus-value à Castres. Franchement, que ce soit les Barlow, les Staniforce, les Botitou, je trouve que ce club a extrêmement bien recruté depuis 2 ans et s'est renforcé et a vachement bien équilibré son effectif. Et d'ailleurs, ça reste toujours la force de cette équipe parce que c'est la culture castresse de savoir faire déjouer l'adversaire. Les Toulousains nous l'ont assez dit encore le week-end dernier. Mais je trouve vraiment qu'ils ont des nouvelles cordes à leur arc cette saison. Moi, j'ai vu plusieurs matchs cette année. Je me rappelle du match de La Rochelle où ils étaient menés de 20 points à domicile, où ils ont vachement emballé le match pour pouvoir le retourner. Je trouve qu'ils arrivent à mettre un petit peu ce feu offensif. Et l'autre chose, là où ils sont très, 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 très forts cette saison, qu'on le veuille ou non, on regarde, ils ont un tout petit goal average et pourtant ils finissent premier, c'est qu'ils ont gagné tous les bras de fer. Dans les matchs au forceps, ils sont excellents. Et d'ailleurs, pour terminer, les 2 matchs entre Toulouse et Castres cette saison sont très révélateurs du profil des 2 équipes. À l'aller, Toulouse, quand toutes les stars se sont mis à jouer dans tous les sens, a gagné 41-0. Au retour, match ultra serré. Ben, dans la dernière ligne droite, c'est Castres qui l'a emporté de 6 points. Je trouve que c'est assez révélateur du profil de ces 2 équipes.
Et alors, vous vous attendez à quel type de match, Emmanuel? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelle stratégie adopter pour les castrer face à ce Toulouse-là qui nous a tous impressionnés en barrage? Ça va se jouer où? Bon, Emmanuel, il va dire devant, évidemment. Mais
ça va se jouer, comme d'habitude, dans un match de rugby, sur la capacité de l'une des 2 équipes à avoir des sorties de ballon propres et rapides. Hein. On a vu le Leinster quand ils accéléraient, même contre La Rochelle. Hein. Et notamment contre Toulouse, hein, où ils arrivaient à avoir des sorties de balles assez extraordinaires en moins d'une seconde, je crois. Ça met la défense sur le reculoir. Et même quand tu es très costaud défensivement, si tu n'as pas le temps de t'organiser et que tu es déjà en train de te replacer, donc plutôt sur une position défensive en reculant et que le ballon sorte, tu prends des vagues dans la figure et ça devient quand même très compliqué de défendre. Donc, ça sera la capacité, en tout cas, des équipes à gagner la guerre des rucks. Aujourd'hui, quand on arrive à ce niveau de la compétition, il y a quand même des équipes qui jouent très bien, les Castres jouent très bien, arrivent à tenir le ballon, multiplient les temps de jeu, ce que font aussi les Toulousains. Les Toulousains, je pense qu'ils ont peut-être plus une capacité aussi à marquer sur des turnovers avec des exploits individuels que n'ont peut-être pas, ou moins en tout cas, les Castres. Donc, je pense que c'est, comme d'habitude, la guerre du celui qui gagnera la guerre du sol. Gagnera cette demi et gagnera aussi la finale.
Enfin, quand tu dis gagnera cette finale, c'est-à-dire que tu fais de ces 2 équipes-là, du vainqueur de ce match-là, le favori pour la finale derrière ?
Non, je me méfie quand même de Montpellier aussi. Bon, mais bon, on verra après ce week-end, je ne m'avance pas trop quand même.
Ouais. Un mot quand même sur Castres encore. Cette réussite, c'est la réussite de son manager, hein, Pierre-Henri Broncan, même, qui a fait de cette équipe un premier de la saison régulière. C'est quand même une sacrée performance de la part de cet ancien de Toulouse, hein, d'ailleurs, qui était dans le staff toulousain il y a quelque temps.
Amené par Hugo Moulin en 2015 à Toulouse, je crois qu'Imanol y était encore. Il a fait une saison avec Pierre-Henri Broncan, peut-être qu'il peut nous en parler. Mais...
Ben c'est avant tout quelqu'un qui connaît quand même très, très bien le rugby et qui connaît très bien les joueurs. Moi, j'étais assez impressionné de voir le nombre de joueurs qu'il connaissait de tous les niveaux, même en série. Il a une connaissance du rugby et des joueurs français, mais aussi des joueurs étrangers. Je pense qu'il a su aller chercher les joueurs qu'il lui fallait. Il a modifié aussi quand même l'ADN de Castres. Hein. C'est qu'on parle toujours de Castres, une petite équipe. On joue sur les valeurs de famille, une équipe de pénibles, etc. C'est pas que ça, Castres. Je crois que on les réduit. Ils aiment bien aussi qu'on les réduise qu'à ça, sauf que voilà, c'est une équipe quand même qui joue très bien, qui a des ressources morales, je pense, fortes, liées un peu aussi à cet ADN quand même historique du club où on lâche rien et on va chercher chaque point. Ils sont invaincus, je crois, à Castres depuis un long moment. Je n'ai pas la date exacte, mais...
Je crois que c'est an et demi à domicile.
Un an et demi, voilà. Donc ça, c'est aussi quand même un gage d'une certaine volonté. Et le fait que quand tu joues à domicile, cette notion de jouer à la maison, elle existe encore. C'est quelque chose qu'on perd un peu dans le rugby. On voit d'ailleurs des équipes qui gagnent plus souvent à l'extérieur et qui perdent quand même assez souvent à la maison. Donc, ils ont encore ça et derrière, ils ont su quand même se changer ou en tout cas transformer un peu leur approche des matchs à l'extérieur en s'adaptant. Comme je disais, c'est une équipe qui est capable d'adopter une stratégie alors que peut-être qu'elle n'avait peut-être pas par le passé. C'est certainement ce qu'a amené l'expertise et le savoir de Pierre-Henri Broncan, notamment avec son staff.
Et Olivier, pour trahir un petit secret, c'est un mec que Pierre-Yves Revol avait ciblé depuis un petit moment. Quand il entraînait à Bath, Pierre-Henri Broncan, Pierre-Yves Revol lui a fait une drague vraiment intensive. Il est monté le voir en Angleterre pour le convaincre de signer à Castres, où il a intégré au départ le staff de Mauricio Reggiardo en tant qu'entraîneur des avants. Comme le dit Manol, c'est un mordu de ce sport. C'est un mec qui regarde des matchs de MPC, mais comme des matchs de Fédéral 1. Il est tout le temps en train de regarder des matchs de jeunes de si. Il a une énorme connaissance et qui a un énorme bagage. Il a été entraîneur de la défense à Toulouse. Il a été responsable du recrutement dans certains clubs comme Bordeaux. Il a été dans le staff à Bass. Et avec toute cette expérience, je crois que c'était le bon moment pour lui pour prendre en charge une équipe de top 14 en tant que manager.
Oui, sa connaissance du rugby et son réseau à l'étranger lui permet justement de dénicher des joueurs que personne ne connaissait avant lui, quoi. Ligue champion de Crépigny, Staliforce, Botitou, enfin voilà, c'est des joueurs qu'il a révélés lui quelque part.
Hein. Allez, pour terminer sur cette demi-finale, un mot quand même de celui qui détient en partie les clés du résultat, c'est Antoine Dupont, parce qu'on a retrouvé un Antoine Dupont stratosphérique, quoi. Il nous a fait lever de notre siège lors du barrage contre La Rochelle.
Bah, écoute, j'étais dans le stade, je me suis levé plus d'une fois du siège quand il a pris le ballon en première mi-temps. J'ai bien aimé quand même, avec le sourire, la phrase d'Hugo Mola après le match, quand il dit « Le problème, c'est comme il est champion, meilleur joueur du monde, quand il est juste à 50-60%, forcément, il en manque un peu, mais il en manque par rapport à qui ?» Et il nous dit « Il en manque par rapport à lui, parce que même à 60%, ça reste le meilleur demi-mêlée du championnat et d'Europe. » Et c'est vrai que c'est ça, on a dit que ces derniers temps, il était un peu moins bien, et moi-même, je l'ai écrit. Bon, il n'empêche, quand tu regardes les instants décisifs, en Ulster, c'est lui qui met les essais décisifs. Au Munster, je vous rappelle quand même qu'il n'est pas buteur et il met les deux pénalités en plein milieu des poteaux. Ça reste un facteur X incroyable. Et effectivement, quand tu lui redonnes un peu de fraîcheur, voilà, la première mi-temps qu'il fait contre La Rochelle, c'est un modèle du genre. Voilà, c'est une chance unique d'avoir ce joueur dans le rugby français.
Bah, il fait partie des grands, hein, comme beaucoup à Toulouse, hein, comme Romain Tamac aussi, quand il avait été acculé et qu'il avait montré contre les Blacks que c'était lui le patron. Comme Cyril Baye, comme Julien Marchand, voilà, c'est des grands joueurs internationaux aujourd'hui qui ont pris de l'épaisseur et qui se révèlent aussi dans les grands matchs. Et les grands joueurs, les joueurs de cette trempe, ils attendent que ça. Il y a des matchs qui sont moins sympas à jouer quand tu es en plein hiver, bon, sans faire offense à d'autres clubs, mais il y a des matchs de championnat qui t'as pas toujours la même motivation. Et là, forcément, quand arrivent les phases finales, que tu as travaillé toute la saison et que tu as le droit de t'offrir ce bonheur, mais tu veux être plus qu'au niveau. Donc, en général, c'est plutôt ce genre de joueurs qui montent le curseur et qui font que derrière, toute l'équipe monte aussi le curseur. Et c'est comme ça que tu deviens champion.
Allez, pour terminer, moi, je voulais finir avec cette phrase de Yannick Bru, qui connaît bien Toulouse et qui a dit dans Poulain Rafut, un autre podcast à retrouver chez nous. Il a déclaré dans Poulain Rafut cette semaine que c'était toujours terrible d'affronter un Toulouse en colère avec des joueurs vexés d'avoir perdu leur titre. Ils ne sont jamais bons à prendre dans ces moments-là. Bref, ça promet pour vendredi soir, pour cette première demi-finale, donc entre 4 Stras et le Stade toulousain. Allez, on s'intéresse à l'autre demi maintenant. Allez, parlons maintenant de cette demi-finale entre l'Union Bordeaux-Bègles et Montpellier. Alors, c'est vrai que le contraste est saisissant entre des Montpelliérains qui se préparent au calme, hein, dans un relatif anonymat, et puis des Bordelais, eux, en ébullition, hein, sous tension, malgré la qualification face au Racing. Alors, je vais rappeler le contexte, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Après la défaite à Perpignan, Christophe Furios s'en était pris à ses internationaux, Cameron Wauki et Mathieu Jalibert. Ils ont répondu ce week-end en barrage. Cameron Wauki, doigt sur la bouche après son essai, comme un message adressé à son manager. Jalibert, lui, a déclaré à nos confrères de Canal+, après le match, bah, « on ne joue pas pour Christophe ». Christophe Furios, lui, a réagi avec des mots forts, comme à son habitude. « Le patron, c'est moi, personne d'autre. Ceux qui ne veulent pas me suivre, ils restent sur le côté. Et si jamais ça ne va pas, je partirai ». Laurent Marty, le président, a dû tempérer tout ça dans la presse, évoquant des péripéties, se félicitant surtout d'avoir un groupe à fort caractère. Et puis, ce mercredi, Christophe Furios a un peu calmé le jeu, préférant ironiser, déclarant « si ce n'était qu'une histoire d'ambiance pour se qualifier, on irait manger des pizzas et boire des bières, mais ce n'est pas aussi simple que ça ». Imanol, quel est ton avis là-dessus? Ce ne sont que des péripéties, selon toi, de simples dérapages sans conséquences, des trucs de journalistes, ou est-ce que ça traduit quand même un mal peut-être plus profond?
Je pense que là, il marche, c'est pas que Christophe Furios, je pense que c'est Christophe Furios et les joueurs, ils marchent sur des œufs, parce que ça fait pas partie de l'ADN de ce club, là, de faire des grandes déclarations, de s'opposer. Je pense que Christophe Furios, il a toujours été plutôt là pour protéger son groupe, même quand ça allait mal. Et là, je l'ai senti quand même un peu fébrile dans ses déclarations, notamment quand il dit attention, le patron, c'est moi. Quand tu as besoin de le dire, c'est que déjà, il y a un souci. Alors certes, il attendait plus de ses joueurs. Preuve en est qu'il a eu raison de leur taper dessus, puisqu'ils ont quand même relevé le défi et gagné ce match de barrage. Maintenant, voilà, pour moi, Bordeaux, ce n'est pas un club de stars. C'est vraiment le collectif qui fait la force de ce club. C'est d'ailleurs l'ADN de Christophe Furios aussi, hein, de toujours mettre le collectif en avant. Il a toujours préféré en tout cas faire jouer des joueurs qui avaient envie et qui mouillaient le maillot plutôt que des joueurs qui étaient plus talentueux mais qui ne se donnaient pas chaque week-end. Donc ouais, je crois que les internationaux de Bordeaux doivent faire attention. Il y a Maxime Lucu qui a fait une partie magnifique. Voilà, Maxime Lucu, on le voit, il a la rage de gagner, il harangue le public, il harangue ses coéquipiers. Après, on ne le voit pas faire des grandes déclarations et on ne le voit pas faire des gestes aux caméras. Et pourtant, il est là, il est présent.
Ça t'a surpris, ça? Toi, comment tu les juges, ces réactions? Toi, on en plaisantait la semaine dernière, tu disais que toi, quand on te piquait, quand un entraîneur te piquait, ça marchait toujours. Tu faisais toujours un super match la semaine d'après.
Ah oui, ben, ça bouillonne. Hein. Oui, t'as envie de t'en prendre à lui. C'est aussi ce qu'il recherche. Moi, je me souviens je vais prendre un exemple de Marc Lièvremont à la Coupe du Monde 2011 qui me met au frigo parce qu'après le premier match, je fais une déclaration. En tout cas, non, je ne fais pas une déclaration. C'est lui qui fait une déclaration comme quoi j'avais été dilettante alors qu'il ne me l'avait pas dit en face. Donc moi, j'étais monté le voir dans sa chambre pour lui dire que s'il avait quelque chose à me dire, ça serait bien qu'il me le dise d'abord en face. Parce que j'ai toujours pensé que ça se passait comme ça. Après qu'il le dise dans les médias, il n'y avait aucun souci. Ça ne lui avait pas plu, il m'a mis au frigo. Et derrière, il m'a ressorti du frigo pour le quart de finale contre les Anglais. Bah forcément, j'avais envie de tout bouffer. J'étais aussi en colère contre lui. Alors, est-ce que c'est ce qu'il cherchait? Je ne pense pas, parce qu'a priori, on ne devait pas se qualifier pour les quarts de finale. Mais bon, on s'est qualifié. Après le match, il a dit qu'il avait fait esprit, qu'il me connaissait par cœur. Bon, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça avait marché. Donc, je ne lui en ai pas voulu, puisque c'est peut-être lui qui avait raison. Donc, non, mais après…
Mais est-ce qu'ils auraient eu raison, Cameron Wauki, Mathieu Jalibert, de s'épancher?
Il faut bien connaître ses joueurs. Après, il ne faut pas que ça devienne une affaire trop médiatique, parce que ça peut aussi gêner, je pense, les autres joueurs. Donc c'est bien aussi que ça vive. Hein. Est-ce que Christophe Furios a remis un peu d'huile sur le feu parce qu'il sent qu'il a besoin de tout et que par moment, dans une carrière, bien, dans un groupe, il faut que tu sentes qu'il y a de l'attention, en venir aussi aux mains à l'entraînement s'il faut, au moins. Moi, j'ai toujours préféré sentir un groupe qui vivait, où il y avait de la tension. Alors, on ne s'est jamais foutu des bagarres générales à l'entraînement, mais il y a quelques petits gestes quand il y a des accrochages, quand on sent qu'il y a de la tension, de la concurrence et que tout le monde n'est pas content. Tu sais que les mecs, quand ils rentrent à la maison, ils pensent au match jusqu'au samedi. Ils ne pensent pas à autre chose. Ils ne pensent pas aller boire un coup avec une copine ou aller au cinéma. Donc, tu sais que les joueurs, ils seront prêts le samedi. Donc, moi, ça, ce n'est pas pour me déplaire. Maintenant, faire attention que ça ne prenne pas non plus des proportions. Quand je vois qu'ils commencent à parler de l'année prochaine, à faire des sortes de petites menaces, si ça ne va pas, je m'en vais, je ne veux pas prolonger. Enfin bon, il ferait mieux de se concentrer sur le match de ce week-end.
Un groupe qui vit bien, ce n'est pas, c'est pas un gage de réussite. Moi, je peux te citer des champions de Rochelais qui peuvent papifrer Roland Nogara. J'ai souvenir de cette saison de certains Toulousains, et pas des moindres, qui se sont heurtés au management du Gomola. Jérémy, tu ne me contrediras pas. Enfin, ça peut marcher. Alors, on a parlé de 2011. Je vais te parler de 1999, la demi-finale gagnée par les Bleus contre les All Blacks à Twickenham. Dans cette équipe de France de 99, il y avait des guerres de clans, des luttes intestines. Dalmazo Ibáñez ne pouvait pas s'encadrer et s'éviter le plus souvent possible. Enfin, ouais, donc c'est la haine et la colère peuvent être aussi des leviers intéressants pour préparer des hommes au combat, quoi. Tout autant que l'amour.
Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, et je rejoins en partie Marc, c'est que au moins il s'est passé quelque chose à Bordeaux. Parce que le problème aussi, c'est que depuis 3 ou 4 mois, il ne se passait pas grand-chose en fait, dans cette équipe qui était première du championnat pendant un moment, qui était dans un certain confort, et qui, je le rappelle, avant le match du week-end dernier, a perdu 9 de ses 12 derniers matchs, quoi. Et puis surtout, c'était totalement irrégulier. On les a vus faire une démonstration offensive contre Lyon. La semaine d'après, ils s'écroulent à Perpignan. Enfin, je ne sais pas si Christophe Furios a eu raison ou pas. En tout cas, il s'est passé un truc et il y a eu une forme de révolte. Alors après, par contre, les questions qu'on peut se poser, c'est sur la suite. Parce que autant à ta question, Olivier, tout à l'heure, est-ce que ça va imploser avant la demi-finale ? J'y crois pas une seule seconde, parce que c'est le match le plus important de la saison et tout le monde est rivé là-dessus. Après, si ça tourne mal pour les phases finales, en demi ou même en finale, faudra voir. Par exemple, l'été peut être un petit peu agité à Bordeaux. Ouais.
Alors, mais ouais, je voulais dire... Vas-y, Mène.
Désolé, Maître Canton. Non, ça, comme dit Jérémy, ça c'est très bien quand ça gagne. Parce que quand ça gagne, ben, tu oublies tout. Donc, tu te prends dans les bras et tu te dis, ben, t'avais raison, je suis un con, ou en tout cas, t'as fait ce qu'il fallait. Sauf que quand ça passe pas, ça peut laisser un peu d'amertume et derrière, ça peut être un peu plus long à digérer. Ouais. Donc, je te rejoins là-dessus, Jérémy.
Oui, mais là, on était dans. On le voit bien, sur ce match-là, les joueurs, le groupe était dans la réaction. Face à Christophe Furios. Maintenant, il faut garder cet élan pour jouer cette demi-finale. Ça fait très longtemps que Bordeaux n'a pas enchaîné 2 succès de rang. Comment garder maintenant justement cet élan et cette dynamique ? Parce qu'on va rentrer peut-être un petit peu plus sur le sportif. Là, on parle beaucoup de Bordeaux, on ne parle pas du tout de Montpellier. Hein, ça ne doit pas leur déplaire d'ailleurs aux Montpelliérains, mais il va falloir se les fader. Hein. Les Montpelliérains, ils sont tapis dans l'ombre. On sait que ça va être un gros combat pour les Bordelais face à la puissance des garçons de Saint-André.
Ben moi, j'ai du mal à considérer Montpellier comme un épouvantail. Quoi. Enfin, depuis qu'ils ont perdu leur meilleur attaquant, Kobus Reynak, et leur meilleur avant, Paul Willemse, je trouve qu'ils sont. Ils me font pas une impression délirante. Quoi. Et je vois ce Bordeaux, quand même, qui a mis 35 points au Racing en leur marchant dessus pendant 40 minutes, bien supérieur à Montpellier.
Il rentre un petit peu de monde, quand même, Montpellier. On pense à Arthur Vincent dans la ligne de trois quarts, des choses comme ça. Après, eux aussi, ils peuvent avoir une forme un petit peu. Alors, je sais pas si on peut parler de révolte, mais. Je pense que Philippe Saint-André doit sacrément se servir de cette indifférence à laquelle tu faisais référence, Olivier, cette semaine, parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont dans les deux premiers du championnat, ça fait un petit moment qu'on peut se dire, ça y est, peut-être cette année, c'est la leur, et j'ai l'impression que, comme Marc, beaucoup de monde a du mal à voir le MHR aller au bout, et je crois qu'en interne, on sait que c'est des leviers qui fonctionnent toujours. Hein. Il n'y a plus que 2 matchs à gagner, on va chercher tout ce qu'on peut là où on le trouve. Et je pense que ce seul contre tous, en ce moment, il doit tourner à plein du côté de l'Hérault.
Emmanuel, t'es d'accord avec le constat sévère quand même de Marc sur cette équipe montpelliéraine ?
Non, moi, je suis pas d'accord. Parce pas dangereuse. Que j'ai trouvé qu'il jouait quand même très bien cette saison, où ils ont intégré des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs que personne ne connaissait trop, qui sont vraiment révélés. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent amener une certaine fraîcheur, une certaine insouciance aussi au moment des phases finales, connaissant Philippe Saint-André, Jean-Baptiste Elissalde, je pense qu'ils sont très contents que personne ne parle d'eux. Ils doivent vraiment se nourrir de ça. Ils doivent leur dire tous les jours, laissez-les, on est nuls, personne ne croit en nous, etc., etc. Ils doivent ranger les mecs. Je les connais, ils doivent ranger les mecs. Ça doit leur rentrer dans la tête. Les mecs, là, ils ne doivent plus en pouvoir, d'ailleurs. Donc, il va leur tarder d'en découdre, ouais, d'en découdre. Et je pense que ça peut faire une belle demi-finale. Moi, je pense que ça va être peut-être en tout cas, la demi-finale la plus ouverte, où il y aura le plus de jeux. Je pense que c'est peut-être. On va trouver deux équipes libérées. En tout cas, les Montpellierens, je pense qu'ils vont être capables d'envoyer du volume de jeu. Donc, même si on parle beaucoup de la demi-finale, je pense qu'elle va être quand même plus serrée entre Toulouse et Castres. Je pense que celle-là, elle va valoir le détour. Et on pourrait être surpris, Marco, on pourrait être surpris. Je prends les paris
Je suis très mauvais en pronostic et donc je peux me planter largement. Hein.
Ben moi
Vive
aussi, j'ai tout.
FPEL,
Moi,
Marco.
bon alors écoute, moi j'ai tout faux depuis le début, donc je risque rien, tu vois.
Se pose là aussi, comme pour le Castres-Toulouse, se pose la même question de la fraîcheur aussi. Là encore, les Montpelliérains qu'on avait vus très très fatigués pendant un temps, qui vont récupérer une partie de leurs joueurs, qui ont pu se reposer face à des Bordelais qui sont certes dans le rythme, mais qui ont lâché beaucoup d'énergie, pas mal d'influx dans toutes ces histoires autour du barrage, non?
Ouais, mais alors, je crois que les Bordelais, ils en avaient besoin de jouer là. Ils avaient besoin de retrouver de la confiance et ils ont besoin de retrouver de la constance. Moi, je trouve qu'au-delà de la fraîcheur, la vraie inconnue, pour moi, et on le dit un peu depuis le début, c'est quel Bordeaux on aura samedi soir. Parce que cette équipe est tellement branchée sur courant alternatif depuis des semaines, voire des mois. Si on a le Bordeaux de la deuxième mi-temps du Racing, j'en fais clairement mon favori sur le match. Si on a le Bordeaux totalement apathique de Perpignan, et je ne sais pas vraiment où en est cette équipe-là. Je vois Montpellier largement au-dessus. Aujourd'hui, je la trouve totalement illisible, cette équipe girondine.
Bon, bah alors pour terminer, on va finir avec des pronostics, même si vous êtes très mauvais dans cet exercice, notamment Marc et Emmanuel. Sur ce Montpellier, sur ce Montpellier-Bordeaux, vous voyez qui? Allez, Emmanuel.
Moi, j'ai dit Montpellier.
Montpellier. Ouais. Marc, toi, tu dis
Et moi, je
Bordeaux.
dis Bordeaux.
Jérémy.
Je dis Bordeaux.
Ah bon. Et sur la première demi-finale, il n'y en a pas un qui va mettre Castres, c'est ça?
Non, je dis Toulouse, ouais.
Toulouse.
Toi,
Ouais, je vais
Marco, non?
pas être très original, là, je vais dire Toulouse aussi, oui. Non,
Bon, bah, on va être. Voilà, bah, c'est bien, ça
Olivier?
permet. Hein?
Olivier?
Oh, moi,
Olivier?
je n'ai pas de pronostic, moi,
Oh,
je
allez,
reste neutre. Moi, je suis monsieur
mouille-toi
loyal.
un
Non,
peu, allez. Je sais
non.
pas si vous avez remarqué, il n'a pas fait un seul pronostic depuis le début de la saison, quand même.
Le seul que j'ai fait, c'était autour du Stade Montois. Ça leur a pas vraiment porté chance. Donc maintenant, je vais plus rien dire. Bon, en tout cas, c'est très bien. Ça va permettre à Pierre-Henri Broncan de mettre des petites pièces, hein, comme ça. Ils vont dire, ouais, vous voyez, dans Arrêt Buffet, Emmanuel, Marco Duzan et Jérémy Fada, ils croient pas en nous. Voilà, ça peut marcher,
Si
ça.
ça peut leur servir, on aura contribué. On aura
Pas
contribué.
sûr qu'ils aient besoin de nous. Ouais.
Ah, j'espère qu'ils ont d'autres chats à fouetter, ouais.
Eh ben, on aura la réponse ce week-end à l'issue de ces deux demi-finales. Merci les gars. Bah, on se fait un petit bilan la semaine prochaine, hein, puisque on fera un petit point après vos pronostics. Salut à tous.
Ciao.
Merci, salut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.